VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du jeudi 9 avril 2015. À la une ce soir.
Les réactions continuent au Burkina Faso après le vote du nouveau code électoral.
Je trouve que ce n'est pas nécessaire de procéder à une exclusion par la loi, alors que la voie normale aurait été la justice. Parce qu'une loi pareille en démocratie n'a aucune justification.
Conflit sud-soudanais, la pression s'accentue sur les belligérants pour un accord de partage du pouvoir.
À l'approche de la présidentielle togolaise du 25 avril, les organisations de la société civile publient un rapport pour le moins mitigé sur le pouvoir.
Le leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, insiste pour que soient levées les sanctions dès la signature d'un accord définitif sur le nucléaire iranien.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Alors que différents secteurs nationaux et internationaux réclament une enquête indépendante sur un charnier découvert à Kinshasa, le gouvernement de la République démocratique du Congo affirme à son tour que les corps inhumés à Maluku sont ceux de morts-nés, de personnes non identifiées et de personnes indigentes. Il ne s'agit donc pas, selon le porte-parole du gouvernement, des corps de personnes ayant pris part aux manifestations de janvier dernier à Kinshasa. Lambert Mende s'est exprimé à ce sujet lors d'une conférence de presse aujourd'hui.
300 bébés morts-nés, 57 personnes non identifiées, 30 personnes indigentes identifiées, 26 corps abandonnés à l'hôpital Saint-Joseph de Limété, 12 personnes abandonnées à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Si vous faites le total de ces chiffres que je viens de vous donner, vous arriverez au montant, au total de 421 personnes. Émotion, indignation, stupéfaction, spéculation, on croirait que c'était des gens aimés de leur famille, de leur vivant, que c'était plus des indigents abandonnés. On se demande pourquoi on les a abandonnés si on les aime tant. Maintenant qu'ils sont morts, ce n'est pas une banalité que 421 personnes soient dépourvues de la chaleur d'une solidarité familiale. Nous sommes Africains, donc l'émotion est sincère. Mais nous nous connaissons et nous savons qu'il y a des émotions aussi politiquement motivées, pour être poli. Le bilan de ces événements, de 19 au 21, est connu. 27 morts officiellement. Et même les sources les plus mensongères, les plus mal intentionnées, n'ont pas dénombré 421 morts, les 19, 20 et 21 janvier. Ceux qui s'adonnent à cet amalgame tentent simplement d'alimenter inutilement la fabulation.
Déclaration du porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende Omalanga, un extrait que nous devons à Top Congo FM, notre station partenaire en RDC.
Un mois après l'échec des pourparlers de paix sud-soudanais, les médiateurs est-africains du conflit qui ravage le jeune pays depuis décembre 2013 veulent accentuer la pression sur les belligérants en associant l'Union africaine et l'ONU aux négociations. Jean-Roger Billon.
Un nouveau plan de règlement est aussi en préparation selon les diplomates interrogés par l'AFP. Il propose de nouveau un accord de partage de pouvoir entre les chefs des deux camps belligérants, le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Cette question est l'un des principaux points de blocage à un accord politique devant mettre fin au conflit. Le nouveau processus de négociation envisagé par l'organisation intergouvernementale Est-Africain IGAD et baptisé IGAD Plus associerait notamment l'Union africaine et l'ONU, mais aussi la Chine qui a d'importants intérêts pétroliers au Soudan du Sud, de même que la Troïka, États-Unis, Royaume-Uni, Norvège, principal artisan de l'accord de paix signé en 2005 entre Juba et Khartoum et qui avait ouvert la voie à l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011. Cet élargissement doit permettre d'accroître la pression des Africains sur les partis et resserrer les rangs au sein de l'IGAD, a su un diplomate impliqué dans les négociations. L'IGAD a également changé de stratégie en rédigeant un accord cadre à soumettre aux partis plutôt que de les laisser négocier entre elles, comme c'était le cas jusqu'ici, ce qui avait donné lieu à des discussions interminables et largement stériles.
Et nous restons dans la région pour signaler que les Soudanais s'apprêtent à voter la semaine prochaine. Omar Hassan El-Béchir, président depuis près de 26 ans, est assuré d'être réélu face à 15 concurrents peu connus. La plupart des partis de l'opposition boycottent l'élection, comme en 2010.
Lutte contre Al-Shabaab en Somalie. Le gouvernement met à prix les têtes de 11 responsables du groupe djihadiste somalien. Des primes qui peuvent aller jusqu'à 250 000 dollars sont offertes pour leur capture. En tête de liste figure Ahmed Oumar Diré, le chef suprême des Shabaab.
Et en Algérie, le gouvernement annonce que 4 islamistes ont été tués ce matin lors d'une opération de l'armée à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Alger.
En Égypte, le groupe djihadiste Ajnad Misr, qui revendique régulièrement des attentats contre la police au Caire, confirme le décès de son chef, tué dans un échange de tirs avec les forces de sécurité.
Violence anti-immigrants à Durban, en Afrique du Sud. Les attaques des 3 derniers jours ont poussé un millier d'immigrants, africains pour la plupart, à fuir leur maison. Les habitants de ce grand port sud-africain ont en effet juré de les expulser. D'après les forces de sécurité, ces immigrés ont été hébergés dans des postes de police ou sous des tentes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au Yémen, le ministère de la Défense a été touché ce jeudi lors d'un raid aérien de la coalition arabe sur la capitale. Les rebelles chiites, houthis et leurs alliés contrôlent Sanaa depuis plusieurs mois. Les combats font rage au 15e jour des frappes aériennes de la coalition, tandis que les différents protagonistes du conflit multiplient les déclarations diplomatiques. Claire Morin-Gibourg.
Les bombardements de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite sont intenses et l'UNICEF s'est de nouveau alarmé sur l'enrôlement et la mort d'enfants dans ces combats, l'agence onusienne appelant à une solution pacifique. Dans le même temps, c'est l'escalade verbale entre les différents acteurs du conflit. Washington a haussé le ton contre l'Iran, l'accusant de tenter de déstabiliser la péninsule arabique. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé sans détour que son pays savait que l'Iran armait les rebelles chiites houthis ayant pris la capitale Sanaa et de vastes régions du Yémen avant de déferler vers le sud. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés, a-t-il ajouté. De son côté, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'en est pris à l'Arabie Saoudite dont les bombardements sont, selon lui, de véritables actes criminels. Dans le cadre du renforcement de son soutien, l'armée de l'air américaine a commencé à ravitailler en vol des avions de la coalition, selon le Pentagone. La diplomatie américaine a précisé qu'elle ne cherchait pas la confrontation avec Téhéran, mais qu'elle n'abandonnerait pas ses amitiés et ses alliances.
Dans le nord de l'Afghanistan, au moins 10 personnes sont mortes aujourd'hui dans un attentat suicide mené par des talibans. Ces membres du service de sécurité, 5 civils, ont été tués et 66 autres ont été blessés. C'est ce qu'a annoncé le chef de la police de la province de Balkh, Abdulraziz Kaderi, cité par l'AFP. Les forces de sécurité afghanes ont mis fin à cette attaque contre un tribunal après 6 heures de combat.
La Syrie peut maintenant compter sur l'appui des Palestiniens pour une opération contre le groupe État islamique dans le camp de réfugiés de Yarmouk. Ce camp, situé dans le sud de Damas, a été pris par les djihadistes, plaçant des milliers de civils sous la menace de l'artillerie de l'armée syrienne. Les organisations palestiniennes, à l'exception du Hamas, ont pris l'engagement de coordonner une opération de concert avec l'armée en vue de déloger les islamistes de Yarmouk. Un délégué de l'autorité palestinienne citée par l'AFP a déclaré que toute action militaire dans le camp devra éviter des destructions massives.
L'ayatollah Ali Khamenei, leader suprême de l'Iran, insiste pour que soit levée dès la signature d'un accord définitif sur le nucléaire iranien toutes les sanctions des Occidentaux et des Nations Unies contre son pays. Lionel Gaïma.
L'ayatollah, qui s'exprimait pour la première fois sur l'accord cadre de Lausanne, a déclaré aujourd'hui dans un discours télévisé que cet accord ne garantit pas que des négociations aboutiront en définitive d'ici au 30 juin, l'objectif que se sont fixés l'Iran et les puissances mondiales du P5+1. Tout est dans le détail, il se peut que l'autre partie, qui est déloyale, veuille limiter notre pays dans les détails, a dit Ali Khamenei, qui a réaffirmé que son pays ne cherchait pas à fabriquer l'arme atomique comme l'en soupçonnent l'Occident et Israël. L'ayatollah a malgré tout exprimé son soutien continu aux négociations, précisant qu'il est ouvert à un compromis qui respecte la dignité et l'honneur de l'Iran.
«
Nous ne signerons aucun accord à moins moins que toutes les sanctions économiques ne soient levées en même temps au tout premier jour de l'application de l'accord, a déclaré de son côté le premier ministre iranien Hassan Rouhani aujourd'hui à l'occasion de la journée nationale de technologie nucléaire de son pays.
La Grèce a versé au Fonds monétaire international 495 millions de dollars d'un paiement dû en avril, mais rien n'est certain pour la suite. Toutefois, ce remboursement confirmé aujourd'hui par la patronne du FMI, Christine Lagarde, aura pour effet de calmer les investisseurs. Athènes a annoncé hier avoir vendu des bons du Trésor pour 1 milliard 240 millions de dollars. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Camille Grosdidier.
En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi visant à doter le pays d'un cadre législatif de référence relativement aux politiques et stratégies de développement de l'agriculture. Dans un communiqué, le gouvernement ivoirien précise que ce projet de loi reconnaît pour la première fois le statut de l'agriculteur, celui des exploitations familiales ainsi que celui des entreprises agricoles. Cette reconnaissance devrait rendre l'agriculture ivoirienne plus attractive, tant pour les Ivoiriens que pour les investisseurs étrangers, ajoute le communiqué. Genève accueille à partir du 13 avril la 6e édition du sommet sur les produits de base de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. Selon Chris Thérault, économiste à la CNUSED, ce sera l'occasion d'étudier l'impact de la chute des prix du pétrole, mais également du minerai de fer sur les économies africaines.
Les impacts sont déjà assez sévères. On a vu dans les deux grands pays, en Angola et Nigeria, une contraction assez importante des budgets publics d'abord. Et ça a un impact éventuel sur leurs dépenses sociaux et les revenus qu'ils puissent mettre de côté, épargner pour des projets éventuels aussi.
Et au Sénégal, la production de pommes de terre est attendue à plus de 50 000 tonnes selon les médias locaux. Elle devancerait donc les prévisions du programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, le PRACAS. De 5 000 tonnes produites en 2006, la production a été multipliée par 10 en 2015 et son essor se poursuit.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Camille Grosdidier.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est aussi les sports. Bagassi Koura, bonsoir.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Cannes 2017, réaction après le tirage au sort.
Oui, aujourd'hui la réaction d'Alain Giresse, hein, il est le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Le Mali qui se retrouve dans le groupe C avec le Bénin, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud. Eh bien, nous avons tout simplement demandé à Alain Giresse son avis sur ce groupe.
Il est équivalent aux autres groupes, au tirage, sauf le groupe où il y a l'Égypte et les Nigeria, ainsi que le Cameroun et l'Afrique du Sud, qui sont certainement les groupes les plus relevés. Bon, compte tenu des chapeaux qui ont été constitués, voilà, c'est un groupe homogène, où les têtes de série sont quand même en présentation les plus avantagées. Comme ça, j'ai dit bien en présentation, parce qu'un tirage au sort est une chose, mais la réalité, ça reste les matchs et le terrain.
Voilà, Alain Giresse, Bagassi, le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, se trouve dans le groupe I.
Oui, avec l'autre Soudan, le Soudan tout court, la Sierra Leone et le Gabon. Les matchs contre ce dernier ne seront pas comptabilisés parce que Chérubin, le pays organisateur, est automatiquement qualifié.
Et la première journée des qualifications, ça débute
les 12, 13 et 14 juin prochains, si vous êtes encore là. Hein, la sixième et dernière journée aura lieu les 2, 3 et 4 septembre 2016.
Vous avez des questions sur la CAN? Vous voudriez en savoir davantage? Visitez voaafrique.com. Parlons maintenant, Bagassi, de football européen.
Oui, le Paris Saint-Germain peut croire à un historique triplé dans les compétitions nationales après sa qualification face à Saint-Étienne 4-1, triplé de Zlatan Ibrahimovic, bien sûr. Et en Italie, la Lazio Rome a gagné à Naples 1-0 en demi-finale, retour de la Coupe d'Italie. Les Romains rejoignent ainsi en finale la Juventus de Turin.
Et Washington Wizards, bonne nouvelle Basket.
Oui, on est en NBA. Hein. Grosse soirée hier avec 13 matchs au programme. Toujours quelques places à prendre pour les playoffs. Victoire précieuse de Boston à Détroit, 113 à 103. Leader de la conférence Est, Atlanta bat Brooklyn. Toronto domine Charlotte, 92 à 114. Et bien sûr, les Wizards de Washington ont battu Philadelphie sur le parquet, 119 à 90.
Il fallait commencer par là, petit malin. Merci, Bagassi.
Ok, on maintient.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et chez Rubin Dorcy, les Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour.
On commence au Burkina Faso, Morgane, où les réactions continuent après le vote du nouveau code électoral. Si elle est promulguée, la nouvelle loi va empêcher les partisans du président déchu Blaise Compaoré de se présenter aux élections présidentielles et législatives. La mesure semble bien populaire dans le pays, où elle est soutenue par la plupart des partis politiques et des organisations de la société civile. Siaka Koulibaly est analyste politique à Ouagadougou. Il explique au micro de Bagassi Koura pourquoi, lui, il ne soutient pas cette nouvelle loi.
Je trouve que ce n'est pas nécessaire de procéder à une exclusion par la loi, alors que la voie normale aurait été la justice. Parce qu'une loi pareille en démocratie n'a aucune justification. Par ailleurs, le texte est contraire à la constitution du pays et à la charte de la transition qui imposait le principe de l'inclusion. Alors, une fois que nous avons accepté ce principe d'inclusion, la communauté internationale va être réticente à apporter ses concours financiers pour l'élection. Et si l'élection n'est pas réalisée, parce qu'actuellement, le pays a des problèmes budgétaires, donc on va repousser la transition, ce qui est totalement inadmissible.
Ceux qui l'ont adopté disent que les gens de l'ancien régime doivent payer.
Mais bien sûr. La meilleure façon de le faire, c'est qu'ils passent devant la justice. Parce que par le texte qui a été adopté, on n'a aucun moyen réel de savoir la responsabilité directe des gens. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va étudier les crimes de sang et les crimes économiques et établir la responsabilité de ces acteurs-là sur ces éléments. Donc je crois que le texte a des avantages électoralistes pour certains groupes, mais du point de vue de la justice pour les morts du 30 octobre et pour tous les crimes de sang et économiques qui ont eu lieu depuis les 27 années, je ne pense pas que ce soit la bonne voie.
Oui. Donc, à votre avis, ce texte qui institutionnalise la discrimination ne devrait pas passer le cap du Conseil constitutionnel?
Voilà. Normalement, le président du FASO ne devrait pas promulguer cette loi. Et plus tard, le Conseil constitutionnel devrait le casser et ne pas juger les candidatures aux élections sur la base de cette loi, éventuellement. Sans compter les différents recours qui pourraient avoir lieu auprès des organes, des juridictions internationales ou régionales comme la Cour de justice de la CEDEAO ou la Cour africaine des droits de l'homme.
Et puis il y a aussi, comme une sorte de coïncidence, toutes ces interpellations qui concernent les dirigeants de l'ancien parti au pouvoir. Tout ça, ça vous gêne?
Mais on observe, on se rend compte aussi que ce sont des interpellations pour nécessité d'enquête. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inculpation pour le moment vis-à-vis de ces acteurs. Nous attendons de voir que les gardes à vue se terminent et quelles seront les décisions qui prendront les juges sur le sort de ces anciens dignitaires.
L'analyste politique Siaka Koulibaly, joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
À l'approche de l'élection présidentielle du 25 avril prochain au Togo, 6 organisations de la société civile du pays partenaire de l'ONG CCFD Terre Solidaire ont publié un rapport intitulé « Démocratie à double vitesse, ambivalence d'un pouvoir qui tergiverse ». Ce document dresse un bilan mitigé des 10 ans de pouvoir du président Fornasingbe, explique Bruno Anselm, chargé de mission Afrique au CCFD Terre Solidaire.
La vie politique togolaise est vraiment très, très polarisée dans un affrontement très ancien entre une opposition dite radicale et le parti au pouvoir, même s'ils ont, ils ont changé de nom depuis. Et la société civile n'échappe pas à cette polarité. Donc ces associations ont voulu faire un bilan, si possible objectif, non pas un bilan uniquement axé sur les questions électorales, parce que le débat aujourd'hui qui traverse la société togolaise sont des débats concentrés sur la question électorale, bien sûr on en parlera, mais ils ont souhaité faire un bilan beaucoup plus large, y compris sur les questions de la justice, la question des droits de l'homme en général, la question économique, du dialogue social, la question du dialogue politique. Donc c'est un état des lieux général qui permet finalement de conclure sur un bilan ambivalent, c'est même le titre de ce rapport.
Mais il est ambivalent de quelle façon, notamment au plan politique ?
Il y a des éléments positifs, puisque le pouvoir a pris conscience en 2007 que sa réélection n'était pas garantie, ou en tout cas pas facilement pour 2010, et donc il a mis en place une stratégie d'ouverture, de réconciliation, de modernisation de l'administration. On peut noter des améliorations très nettes sur les questions sociales, la question du dialogue social, la question de la protection sociale, des zones franches, la question du SMIC. On a des améliorations sur la situation des droits de l'homme, de la liberté de la presse. Et puis, évidemment, il y a des questions liées à la déception. Les gens, quelque part, ont adhéré au discours, ils y ont cru, et puis il y a un certain nombre de promesses qui n'ont pas été tenues. Et puis, surtout, pour revenir à votre question, sur le plan politique, sur le plan politicien, il y a des blocages réels d'un régime qui, quelque part, met en place des stratégies élaborées de refus de l'alternance.
Est-ce que les organisations de la société civile proposent une alternative ?
D'abord, elles analysent la situation et font un certain nombre de recommandations. Alors, de toute façon, je crois que ça ne serait pas original pour nos organisations partenaires de se limiter à la question qui traverse la société aujourd'hui, la question du nombre de mandats, la question du découpage, la question des listes électorales. Je crois que tout le monde porte ce débat, y compris la communauté internationale, les institutions panafricaines, la France, l'Union européenne. Donc, je crois qu'elle rappelle effectivement ces enjeux-là. Elle rappelle quand même que des progrès ont été faits dans ce pays, mais elle interpelle notamment le pouvoir, mais les candidats d'une manière générale à la responsabilité, parce que probablement que les populations togolaises n'accepteront pas indéfiniment ce type de tergiversation de la part du pouvoir.
Bruno Anselme, chargé de mission Afrique au CCFD Terre Solidaire, au micro de Camille Grosdidier.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Ici aux États-Unis, on parle beaucoup de l'inculpation et de la révocation du policier blanc Michael Sleeger, vu sur une vidéo en train d'abattre un noir non armé en Caroline du Sud. D'autres épisodes similaires filmés par des témoins n'ont pas produit pourtant le même résultat dans d'autres États. Le dernier qui nous vient à l'esprit, c'est le cas d'Eric Garner à New York. Alors pourquoi, se demande-t-on ? L'avocat Philippe Brutus nous offre son analyse.
Bon, c'est clair que l'existence d'une vidéo qui a capturé seconde par seconde les actions du policier et de l'individu qui s'échappait et qui l'a tué avec sang-froid. C'est pur et simple un meurtre. Et les autorités américaines qui se sont souciées quand même de la réputation qui se développait, ce qui a trait à l'assassinat des gens de couleur par la police avec impunité, ils se sont mis d'accord immédiatement. On a des preuves tangibles, il faut qu'on accuse cette personne, il faut qu'on arrête et qu'on le révoque de son boulot.
Mais est-ce que cette preuve tiendra au tribunal ?
Bon, quand même, quand on est jugé par des individus, par des gens qui ne sont pas infaillibles, il y a toujours une possibilité que les choses peuvent détériorer.
Si vous étiez l'avocat de Sleeger, quelle serait votre stratégie ?
Prime abord, je considérerais en prenant pour parler avec l'avocat du gouvernement, le procureur, pour voir est-ce qu'on peut faire une sorte d'entente, parce que l'évidence est réellement frappante. Mais si je devais aller en jugement, comme on dit toujours, quand il n'y a rien à dire, bon, il était stressé, il était dans un quartier un peu dangereux, il a perdu son sang-froid, il n'a pas voulu l'abattre. Bon, peut-être il a voulu tirer en l'air, mais pendant un moment, un instant, il a perdu son sang-froid, il a perdu sa lucidité. Mais quand même, je pense que ça tiendra.
Maître Philippe Brutus, comparons un peu ce qui vient de se passer à North Charleston avec les autres incidents connus récemment ici aux États-Unis où des policiers blancs ont abattu des noirs non armés.
Bon, c'est clair que, pour Ferguson par exemple, Michael Brown, il n'y avait pas de vidéo. Il y avait des conflits entre les témoins. Quelqu'un dit qu'il avait les mains en l'air. Des autres ont dit qu'il avait les mains en direction de la police, comme il avait tiré. On ne sait pas. Il y avait l'autre situation dans un parc, je pense, un jeune homme de 14 ans qu'on a tué aussi, bien qu'il y ait une vidéo qui a montré que la police a tiré sur lui en moins de 3 secondes. Et je ne sais pas ce qui va se passer là. Et Eric Garner, maintenant, on a vu que les policiers l'ont harassé et finalement tué. Alors je pense que la pression forte des policiers à New York, ils ont quand même 30 000 policiers, plus un syndicat très fort, ont quand même forcé la main à la justice new-yorkaise pour rien faire contre les tueurs d'Eric Garner. Tandis qu'en Charleston, c'est une petite ville, et dans le sud, proche du marché, et puis il y a un sénateur nord-américain, il y a beaucoup de faits qui ont joué dans cette décision rapide.
Voilà l'avocat Philippe Brutus que j'ai joint à son bureau en Floride.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Un groupe de 25 000 usagers accusant Facebook d'utiliser illégalement leurs données personnelles a déposé un recours collectif contre le réseau social au tribunal civil de Vienne. Les plaignants réclament chacun la somme de 500 euros à Facebook. Ils accusent notamment de participer au programme de surveillance PRISM de la NASA, l'Agence de sécurité nationale américaine. Florence Bonnet est juriste et spécialiste de la protection des données personnelles. Elle revient sur cette procédure exceptionnelle à l'encontre de Facebook.
C'est un recours exceptionnel dans la mesure où il concerne un grand nombre de personnes. On parle de 25 000 plaignants et qu'à ce jour, en Europe, on n'a pas eu d'action de groupe ou en tout cas d'action qui s'apparente à une action de groupe de cette ampleur.
Est-ce que pour vous, Facebook fait réellement de la surveillance massive?
Je ne dirais pas que Facebook qui fait de la surveillance massive. Disons que Facebook fait ce qu'on appelle du tracking. Donc c'est un suivi permanent des utilisateurs et même des personnes qui ne sont pas utilisateurs de Facebook, puisque dès lors qu'il y a un bouton de partage du réseau Facebook ou un bouton like sur une page, on sait que Facebook vous suit. Après, le problème de la surveillance, c'est plus, je dirais, la surveillance du gouvernement américain avec scandale PRISM qu'on connaît maintenant.
Est-ce que Facebook est partie prenante ou est-ce que PRISM utilise les données de Facebook?
Notre point de vue est que les GAFA, et même plus que les GAFA d'ailleurs, les grands fournisseurs de services Internet américains, ont été très complaisants avec le gouvernement américain, pour X raisons, et donc ont laissé le gouvernement américain avoir accès aux données des citoyens européens. Ce sont des faits qu'on ne peut pas nier et qui sont avérés.
Pour vous, un tel recours va-t-il permettre que les internautes soient mieux protégés?
Déjà, il faudrait que cette action soit jugée recevable par la cour autrichienne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faudra regarder ce qui va être jugé si la cour se prononce d'une part sur la politique de confidentialité de Facebook, puisqu'il lui est reproché de ne pas être suffisamment clair et compréhensible des utilisateurs. Ensuite, si la Cour se prononce également sur le fait que la transmission de données au gouvernement américain via PRISM est parfaitement illégale et contraire à la réglementation européenne de protection des données et aux droits fondamentaux des citoyens européens. Et puis, si la Cour se prononce également sur tout ce qui est suivi des utilisateurs à leur insu. Donc forcément, l'utilisateur de Facebook, et même, je dirais, chaque citoyen européen, puisqu'on consulte tous des pages où il y a des boutons de partage Facebook, sera bénéficiaire.
La juriste Florence Bonnet, spécialiste de la protection des données personnelles, au micro de Claire Morin-Gibourg. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Les réactions continuent au Burkina Faso après le vote du nouveau code électoral.
Conflit sud-soudanais, la pression s'accentue sur les belligérants pour un accord de partage du pouvoir.
À l'approche de la présidentielle togolaise, des organisations de la société civile publient un rapport accablant sur le pouvoir.
Le leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, insiste pour que soient levées les sanctions dès la signature d'un accord définitif sur le nucléaire iranien.
La mise en onde a été assurée ce soir par Lionel Gaïma. À la présentation, Morgane Guiriac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.